Les salariés de PFM ont vraiment décidé de se mobiliser cette semaine, notamment sur la réforme des retraites. Et c'est ce pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui, ce matin d'ailleurs. Vous avez très vite répondu positivement à mon invitation, parce que j'aimerais que les auditeurs puissent connaître les conférences que vous menez. Ce sont des conférences ludiques, simples et très très bien menées. Et donc, vous faites partie de ce qu'on appelle Scop le pavé. Vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste cette coopérative ?
Oui, c'est une coopérative d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on était un certain nombre, on était 8 qui travaillions dans ce qu'on appelle éducation populaire. On était des animateurs socioculturels, enfin. Et puis on estimait qu'on n'arrivait pas à faire du tout de l'éducation populaire, c'est-à-dire de l'éducation politique, puisqu'on est en France dans un système de subventionnement depuis les années 80, où la moindre association, si elle fait un pas de travers, perd toutes ses subventions. Et donc elles ont cessé depuis bien longtemps d'être des contre-pouvoirs, et donc on trouvait ça très triste de l'intérieur. On a décidé de créer notre propre outil de travail, comme on dit. Et donc comme on ne voulait pas refaire une association, on a redécouvert le modèle des coopératives du 19e siècle, qui sont en fait des associations de travailleurs. Et voilà, on a créé une coopérative, on est coopérateur.
Et donc vous voulez vraiment remettre à l'ordre du jour le fait qu'on puisse expliquer des choses très simplement et en argumentant et en contredisant ce qu'on peut dire la voix unique qui est entendue un petit peu partout. Et c'est pour ça que j'ai voulu que vous participiez à cette interview. C'est que dans votre la toute dernière conférence, je le répète, travailler moins pour gagner plus, ou l'impensé inouï du salaire, vous faites quand même une belle précision sur la réforme des retraites. Et vous démontez un par un les arguments des réformistes, ce qui est bizarrement pas du tout mis en avant depuis quelques mois. Pourtant, c'est quand même l'information primordiale qu'on a entendue ces derniers temps. Et pourtant, ce sont des arguments qu'on a absolument entendus nulle part. Alors, pour commencer, j'aimerais bien qu'on prenne un des arguments des réformistes, qui est le problème démographique. En gros, d'après eux, si on garde le système de répartition tel qu'il existe, en 2040, la population sera beaucoup plus nombreuse, et pourtant les actifs seront moins nombreux pour plus de retraités, ou au niveau égal. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi cet argument n'est pas valable ?
Mais c'est finalement assez simple. Alors, juste une précision, vous dire que tout ce qu'on fait, on l'emprunte à des gens qui sont des gens extrêmement sérieux, et notamment cette conférence, c'est un travail de vulgarisation du livre et du travail d'un monsieur qui s'appelle Bernard Friot, qu'on peut lire, sauf que alors lui c'est très très sérieux, d'abord c'est sérieusement écrit, c'est très costaud.
C'est l'enjeu des retraites.
C'est remarquablement expliqué. Maintenant, l'histoire de la démographie, c'est une triple arnaque. C'est hallucinant ce truc, mais ça marche très bien parce que l'argument est facile à comprendre. Et même moi, il y a quelques années, je me suis fait avoir. Quand Raffarin nous a envoyé en notre nom propre, à chaque Français dans notre boîte aux lettres, le petit schéma avec les trois jeunes qui payent deux vieux et puis ensuite les deux jeunes qui n'arrivent plus à payer trois vieux, vu comme ça, je me suis dit waouh. Et comment répondre à ça ? Parce que ça a l'air complètement imparable. En fait, c'est complètement faux, c'est une manipulation, c'est de la pédagogie gouvernementale. Et donc, nous, on a décidé de faire de la contre-pédagogie, quoi. Premier argument, deux travailleurs. Alors, c'est pas des jeunes qui payent pour les vieux, déjà, il faut arrêter ça. C'est des actifs qui payent pour des gens qui pour des inactifs, d'accord ? Moi, je paye actuellement pour des retraités. Pourtant, je suis pas jeune, j'ai 55 ans. Donc, c'est tout autant des vieux qui payent pour des vieux. Donc, déjà, il y a une première entourloupe sur le rapport intergénération, le rapport jeune-vieux. Ça, c'est monstrueux. Bon. Mais, beaucoup plus simplement, deux actifs dans 40 ans fabriqueront plus de richesses que trois actifs aujourd'hui. Ça s'appelle bêtement les gains de productivité, d'accord ? Et le gouvernement le sait très bien, je veux dire, puisqu'il n'arrête pas de nous annoncer que la croissance sera là, qu'elle va être formidable, qu'il y aura au moins 2%, etc. Et donc, ce raisonnement du gouvernement, c'est comme de dire que en 1944, il y avait 15 millions de paysans pour nourrir 30 millions de Français, et comme on savait que dans 40 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y aurait plus que 2 millions ou 3 millions de paysans pour nourrir 60 millions de Français, on pouvait prédire une immense famine en France en 2010. C'est aussi bête que ça, c'est absolument idiot, mais ça marche. Dans 40 ans, les actifs produiront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de richesses aujourd'hui. Nous sommes le pays du monde qui a le premier taux de productivité par travailleur. Et donc, il y a déjà, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème démographique. Absolument pas l'ombre d'un.
Alors pourtant, on entend tout le contraire depuis des semaines. Alors moi, ma question à ce niveau-là, s'il n'y a pas de problème, alors est-ce qu'il faut réformer le système ou il faut simplement le
déréformer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe depuis la guerre, depuis la libération, quand on généralise le système des retraites, pourquoi on le généralise? Le patronat est à genoux, il a collaboré avec l'occupant, d'accord, et en face, il a un parti communiste à 24% qui est armé. Le patronat n'est absolument pas en situation de discuter, donc il lâche tout. Il lâche la sécurité sociale généralisée, il lâche les retraites, il lâche tout le système. Okay, c'est ça que Sarkozy veut démolir, ce sont les acquis de 1945. Et Denis Kessler l'a écrit, le numéro 2 du MEDEF, il s'agit de démolir tout 1945. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Bon. Mais quel est l'intérêt de démolir un système de répartition qui fonctionne? Quel est l'intérêt du gouvernement pour mener ce combat?
C'est tout le problème. Ce système fonctionnait remarquablement bien jusqu'en 91, grosso modo. C'est-à-dire que c'est un système où les besoins des retraites étaient couverts par une augmentation lente, régulière, douce des cotisations patronales qui étaient indexées sur les besoins en matière de retraite. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement de plus en plus de gens qui touchent des retraites, et donc on augmentait tout doucement de quelques 0%, d'accord, on augmentait les cotisations patronales, les cotisations des patrons. Mmh. C'est ça qu'ils ont cassé, le gel des cotisations patronales, d'accord, qui est un programme de l'Union européenne, d'accord. La France, avec Michel Rocard, décide de s'aligner là-dessus, et ensuite tous les gouvernements qui suivent, socialistes de droite comme de gauche, suivre ce truc-là. Il suffit d'arrêter ça, c'est tout. Il n'y a plus aucun problème de financement des retraites. On a eu 40 années sans problème de financement des retraites, et maintenant on a un problème de financement des retraites parce qu'on a fait un cadeau cosmique aux patrons, et un cadeau absolument injustifié, parce que cette augmentation n'a jamais mis l'économie française en danger, jamais. C'est le quatrième pays le plus riche du monde, ça se passe très bien. Simplement, ils s'en mettent plus dans les poches. Voilà. Et donc, le problème n'est pas de réformer, le problème est de casser ces réformes complètement débiles qui étaient celles de 83, qui étaient celles de Balladur, etc. Voilà, c'est tout. Alors évidemment, si on ne fait pas ça, alors là, oui, il y a un problème de financement, puisqu'il y a moins de recettes qui rentrent. Alors, ah, bah là, c'est embêtant, il faudrait que les gens travaillent plus. Vous comprenez le truc? Mais c'est fou, ce truc.
D'accord. Donc il est difficile quand même de la part du patronat. Si je comprends, il faudrait augmenter les charges patronales. Ouais. Et donc du coup, parallèlement à ça, augmenter le salaire des actifs. Normalement, il devrait y avoir une conduite.
L'obsession du capital depuis deux siècles, c'est la basse pression salariale. C'est-à-dire que il faut absolument, mais ça, c'est tous les gouvernements dans un pays capitaliste, leur hantise, c'est l'augmentation des salaires. D'accord. Bon. Ça a commencé en 1983 quand les socialistes ont gelé les salaires. Moi, je fais partie d'une génération où les gens qui ont mon âge aussi, mon salaire augmentait tous les mois. D'accord. Il était indexé sur, je sais plus, le coût de la vie ou je sais plus quoi. Les socialistes en 83 arrêtent ça déjà. Mais ils appellent pas ça le gel de salaire, ils appellent ça une politique de désinflation compétitive. Et là, vous avez un exemple parfait de pédagogie gouvernementale. S'ils avaient dit on arrête les augmentations de salaire, ils avaient toute la France dans la rue. Eh bien, ils ont dit on va faire une politique de désinflation compétitive, d'accord? C'est Jacques Attali, c'est Jacques Delors, des gens comme ça qui ont soufflé ça à Mitterrand. Eh bien, nous ne sommes pas descendus dans la rue contre la désinflation compétitive. Parce qu'on se sentait bête, parce qu'on comprenait pas ce que ça voulait dire, et parce que nous manquons d'instruction économique. C'est ce qu'on fait bêtement avec la coopérative Le Pavé. C'est ce que fait Attac, enfin, c'est ce que font certaines personnes aujourd'hui. On fait de la bébête instruction économique.
Donc, parallèlement à ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi, je me suis baladée sur Internet, je suis allée voir qu'est-ce qui va se passer avec cette réforme des retraites sur legouvernement.com. Et c'est vrai que ça paraît sympathique, en fait, en lisant, normalement, les jeunes, on va les aider à trouver du travail, les seniors aussi, ils vont pouvoir s'impliquer. Donc, c'est une masse salariale qui sera supérieure. J'ai surtout apprécié la partie sur les femmes qui parle de punir ces entreprises qui ne mettraient pas un salaire égal à ceux des hommes. Alors, dites-moi, je me trompe peut-être, mais il me semble que ça fait des années que c'est censé se passer, non ?
C'est la troisième arnaque. Elle est géniale, elle fonctionne. c'est que un des moyens d'empêcher les augmentations de salaire, parce que c'est ça qu'il faut absolument empêcher, d'accord, il faut empêcher les augmentations de salaire. Et quand vous avez un pays qui produit de plus en plus de richesses, comme c'est le cas actuellement, comment vous faites pour dire aux gens que vous refusez d'augmenter leur salaire? Alors vous leur racontez qu'il y a une crise, vous leur racontez tout ce que vous voulez, je veux dire, mais les gens sont pas complètement idiots. Enfin, ils voient bien que ce pays crève, regorge de richesses. Par contre, elle va pas dans leur poche. Je rappelle que la France a doublé son produit intérieur brut en 17 ans, ce qui est énorme, un doublement de richesses. Et donc comment vous faites? Eh ben vous dites, ah là là, il y a un chômage des jeunes, ce qui est totalement faux. Le chômage des jeunes est exactement le même que celui du reste de la population, d'accord? C'est-à-dire que quand vous enlevez les étudiants, ceux qui sont chez eux, etc., le chômage des jeunes qui cherchent effectivement du travail est exactement le même. Donc, premier mensonge, premier miroir aux alouettes.
Donc, les 25% de jeunes au chômage sont égaux aux autres, en fait.
Complètement. Mais quel est l'intérêt de vouloir aider le travail des jeunes? Eh bien, c'est précisément, c'était les emplois jeunes. Et là, ils vont nous refaire, ça c'est ce que raconte Friot, ils vont nous refaire le coup des emplois jeunes avec les emplois seniors. Et c'est génial. C'est-à-dire, écoutez, il y a un problème pour les jeunes, c'est dur pour eux, on va leur faire des emplois qui sont moins protégés, avec des salaires complètement nuls, mais enfin, c'est quand même mieux d'avoir un emploi que pas d'emploi du tout. Et donc, on a tous marché là-dedans. Enfin, la gauche a dit, ah oui, c'était Martine Aubry qui a proposé les emplois jeunes. Mmh. Les emplois jeunes, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'engager des centaines de milliers, je sais plus combien, des millions de personnes, avec des statuts dérogatoires au droit du travail, au lieu d'engager des gens de plein droit, avec un vrai salaire, etc. Eh bien, ils vont nous refaire exactement ce coup-là avec les emplois vieux, c'est-à-dire les emplois seniors. Et comme par hasard, tiens, c'est curieux, vous entendez Chérec, il y a 3 jours, qui dit, bon, franchement, là, vous avez été dur sur le coup des retraites, hein, mais bon, si vous êtes prêts à nous donner des trucs sur les emplois jeunes et les emplois seniors, alors on veut bien discuter. Et là, il y a la patronne du MEDEF qui dit, chiche, c'est du théâtre. Je veux dire, depuis le début, ils avaient prévu le coup. Depuis le début, ils vont nous enfler avec les emplois jeunes et les emplois seniors. C'est un argument de basse pression salariale.
D'accord,
c'est pour engager des gens moins chers que s'ils respectaient le droit du travail, les conventions collectives et tout ça. C'est une énorme arnaque. Et vous comprenez que pourquoi on se fait avoir? Mais précisément parce que c'est présenté généreusement. Premier problème. On va aider les jeunes, on va aider les vieux. C'est quoi cette connerie? Le chômage des jeunes a supposé qu'il y a un chômage des jeunes plus important que le reste de la population, ce qui est statistiquement archi-faux, mais à supposer. Le chômage d'un jeune est infiniment moins grave que le chômage d'un type de 45 ans qui a déjà 3 enfants et une famille à faire bouffer. Enfin, je veux dire, c'est de la manipulation idéologique de première bourre. Mais ça marche. Ça marche parce qu'on a tous la larme à l'œil en se disant « faut aider les jeunes, faut aider les vieux ». Bon, les autres, ils peuvent crever, on s'en fout. Hein. Bon, faut aider les jeunes et les vieux, je sais pas pourquoi faut les aider, ceux-là. Et donc, voilà, c'est de la pédagogie gouvernementale. Eh ben, c'est pas facile de pas se faire avoir pour une deuxième raison, qui est peut-être la plus cruelle à entendre, c'est que, de ce point de vue-là, ceux qui devraient être de notre côté, c'est-à-dire la gauche, en tout cas la gauche de gouvernement, sont pas de notre côté. C'est-à-dire que le PS, pour ne pas le nommer, il est effectivement contre nous dans cette histoire.
Il est contre nous?
Il est du côté de la réforme, ah là là, il faut allonger, faut aider les jeunes, faut aider les vieux, enfin je veux dire. Mais en même temps, c'est lui, à savoir Michel Rocard, qui a lancé le processus, qui a commencé à péter le système, c'est pas la droite. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, hein. C'est officiel. C'est Martine Aubry qui a inventé les emplois jeunes, c'est Jacques Delors qui a lancé le gel des salaires, c'est Fabius qui a fait rentrer les fonds de pension américains alors que personne ne lui demandait, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'on fait avec une gauche qui n'est pas à gauche? Moi, je ne sais pas. Genre, la gauche, ça commence après le PS, donc ça ne fait pas beaucoup de monde.
D'accord. Donc, en gros, on comprend que les politiques de tous bords nous cachent des choses. Et cette réforme, quand même, OK, on a compris, l'âge de la retraite, les cotisations, super, les jeunes, les vieux, on va tous s'en sortir. Mais moi, ce que j'aimerais surtout comprendre, c'est les enjeux cachés. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette réforme? Et je parle surtout d'un point de la loi qui est, vous savez, comme dans les contrats, c'est les petites lignes qu'on ne voit pas. Le titre 5 sur Il y a une petite phrase comme ça qui a été dite par le gouvernement, ce n'est qu'un petit point, vous allez pouvoir épargner pour votre retraite, ça, c'est rassurant, vous mettrez un petit peu de côté. Donc qu'est-ce qui risque de nous arriver en fait si on continue dans cette réforme pendant plusieurs années et qu'on finit par tous cotiser, épargner.
Nous faire prendre des retraites privées, des retraites assurantielles, comme dans d'autres pays, comme la Suisse, comme le Danemark, comme les États-Unis, d'accord. C'est bien évidemment de péter le système de répartition et au nom de le sauver. C'est-à-dire que tout le discours de Sarkozy, c'est tous ces efforts, on vous les demande pour sauver le système de répartition, ce qui est monstrueux, mais plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Pour comprendre l'astuce, il faut arriver à comprendre ce qu'est le salaire. C'est pour ça qu'on a fait cette conférence, c'est pour ça qu'on a vulgarisé Frio, parce que nous avons tous, presque tous, oublié ce qu'est le salaire. Le salaire, il y a deux parties dans le salaire. Il y a celui qu'on me donne dans ma poche, c'est le salaire direct, c'est le net, ok. Et puis il y a quasiment la même somme qui est donnée à quelqu'un d'autre, qu'on oblige le patron à donner à quelqu'un d'autre, après un siècle et demi de lutte et de bagarre. C'est-à-dire, ok, moi vous me donnez 1500 euros, mais par convention collective, vous allez devoir cracher 1500 euros pour payer des chômeurs, des malades, des vieux, des retraités, etc. C'est ça qu'ils veulent casser. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent ne nous donner plus que du salaire direct, et ils veulent nous faire acheter avec notre salaire direct ce qu'ils nous donnaient avant en salaire indirect.
Ce qui est plus dangereux.
C'est toute l'astuce, je veux dire. Là, vous m'appelez au jour d'aujourd'hui, je suis à Genève. On est allé présenter deux conférences en Suisse. Donc on discute un peu avec les gens. Bon, ils ont un salaire en Suisse qui est supérieur au nôtre, d'accord ?
Mm-hmm.
Mais ils ont tout à payer. Il n'y a pas de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des assurances privées, d'accord ? Les soins dentaires ne sont pas remboursés. Ils préfèrent se laisser pourrir les dents que de lâcher, parce que ça coûte bonbon, la dentition, d'accord ?
Oui, parce que ce que nous dit le gouvernement, c'est que si on ne fait rien pour la réforme des retraites, c'est ensuite la sécurité sociale qui va passer à la trappe, qu'on a un trou,
alors,
un trou de la sécu.
Alors, leur objectif suivant, c'est d'attaquer la sécu. Ouais, c'est la prochaine. C'est ce qui nous arrive droit dessus, c'est prévu, c'est ok, c'est comme ça. Et c'est le projet de l'Union européenne qu'il ne faut jamais confondre avec l'Europe. Hein. Je veux dire, le projet de l'Union européenne, c'est la privatisation totale de tous les services publics et c'est l'alignement sur le modèle américain. C'est ce qui a été, c'était l'enjeu du traité constitutionnel européen. Voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le PS a appelé à voter oui, que je sache.
Il est vrai.
Et donc, alors, la question qui se pose, si vous voulez, c'est que tous ces arguments sont des arguments que Pierre Bourdieu, le sociologue, appelait de sens commun. Ça veut dire que c'est des arguments qui ont l'air vachement simples et qui sont pour les combattre, il faut avoir un peu lu, un peu bossé, un peu compris. Et les gens, ils ont vraiment autre chose à foutre le soir que de lire des bouquins de sciences éco, quoi.
Mais c'est pour ça que vous vulgarisez.
Du Front National, si on vire les Arabes, ça fera du boulot pour les Français. Eh bien, cet argument-là, il est faux. Simplement sociologiquement, économiquement, il ne marche pas. Mais pour pouvoir démontrer ça, il faut maîtriser un minimum de compréhension de ce que c'est que le marché de l'emploi, comment il fonctionne, etc., etc. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ces billes-là dans votre poche, vous êtes complètement démuni face à un argument d'une telle évidence.
Donc c'est pour ça que les politiques ont une facilité à nous faire entendre des choses sans qu'on y comprenne quoi que ce soit.
Oui, mais alors qui est responsable ? Parce que moi, je veux dire, j'en veux pas à la personne, à la mémé, à qui on dit, vous savez, les jeunes, vos petits enfants, ils n'auront pas de retraite, hein, faut vous serrer la ceinture. Je veux dire, c'est pas elle la responsable. Je vais même pousser le bouchon loin. À la limite, j'en veux même pas à Sarkozy. Lui, il est dans sa logique. Je veux dire, il a été mis en place par des gens riches. Pour sauver leurs intérêts, ils nous pètent tout le système. Je veux dire, ça va, je comprends ce qui se passe, je sais quel est mon adversaire. Le problème que j'ai, c'est avec ceux qui devraient être mes alliés. Là, j'ai un problème.
Il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui en France, en gros.
Il y a un contre-pouvoir à l'extrême gauche, mais il ne représente pas grand-chose. Il représente 10% ou je ne sais pas combien. Enfin, je veux dire, ils sont infoutus de se mettre d'accord, de s'entendre. Enfin, bref, mais oui. Mais ils vont. Ça, voilà. Et donc c'est absolument désolant, c'est la responsabilité des socialistes. Enfin, je veux dire, moi, l'idée d'avoir Strauss-Kahn comme président en 2012, ça me donne des frissons dans le dos.
Je comprends.
C'est un scénario de cauchemar pur. Enfin. Et alors le problème, c'est que les gens qui devraient faire de la pédagogie, nous on appelle ça de l'éducation populaire. Si on voulait être encore plus carré, on dirait de l'éducation politique. Hein. les gens qui devraient faire ça, c'est-à-dire grosso modo tout le milieu socio-culturel, vous savez, les MJC, les centres sociaux, la Ligue de l'enseignement, enfin bref, tous ces acteurs, tous ces agents, c'est eux qui devraient faire ça.
Mais est-ce qu'ils comprennent eux-mêmes ? Parce que c'est compliqué, hein, cette réforme, elle est complexe. Et je veux dire, vraiment, sur le papier, elle a l'air formidable.
Attaque, au moment du traité constitutionnel européen, on s'est mis à lire le traité, on s'est mis à faire des petits groupes, il y avait des réunions. Les députés ne l'avaient pas lu, il n'y a pas un seul député qui a lu le traité. Et là, vous avez eu des groupes de citoyens qui se sont mis à lire les articles et à les décortiquer. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait une association qui s'appelait Attaque, qui à l'époque avait tout un tas de petits groupes en France, qui s'est mis à faire un travail, à travailler. Mais il faudrait faire la même chose sur les retraites.
Et justement, en parlant de ça, moi j'ai une petite question, je ne sais pas si vous êtes au courant ou juste pour avoir votre avis. Le frère de Nicolas Sarkozy, Guillaume Sarkozy, est quand même assez bien placé au niveau de Malakoff-Médéric. Et on a appris quand même, récemment, hein, c'est quelque chose qui est sorti du fond du placard, que pendant qu'on débattait, enfin que le gouvernement débattait sur la réforme des retraites, en même temps, son frère développer une filiale CNP, Sévria, enfin, il me pardonnera pour mal prononcer son nom, c'est pas l'important. L'idée, c'est que lui mettait en cause que sa fonction était une mutuelle publique, donc était faite pour aider les gens, sauf que cette filiale, elle est privée. Et là, je voudrais en revenir par rapport à cette épargne pour la cotisation, c'est-à-dire qu'on met en avant le fait que les gens vont devoir mettre de côté de l'argent qui sera placé en bourse. Et on a bien vu aux États-Unis, surtout avec la crise des subprimes, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que cet argent qui sera épargné pour leur retraite leur risque vraisemblablement de leur échapper totalement. Donc vous en pensez
les
quoi
États, tous les pays qui ont choisi un système par capitalisation après la guerre ont commencé à avoir chaud et des suées dans les années 70. Fin des années 70, les États-Unis savent qu'ils sont incapables de payer les pensions puisqu'ils ont tout joué en bourse, d'accord, et que la bourse c'est pas un casino, on peut pas gagner tout le temps, c'est impossible, d'accord. Et donc il faut qu'ils se débarrassent de leur saloperie de fonds de pension, d'accord. Et il faut qu'ils trouvent des gens pour les racheter. Et c'est là où, Laurent Fabius, ça c'est dans le bouquin de Frédéric Lordon qui s'appelle Fonds de pension, piège à con, hein, les petits bouquins de la collection Raison d'agir, elle explique ça très bien, là encore j'ai rien inventé. C'est là où Laurent Fabius, ministre socialiste, fait rentrer les fonds de pension américains, c'est-à-dire vos créances pourries, ben, tenez, nous on vous les reprend. Alors il faut aller lui poser la question, hein, dire pourquoi vous avez fait ça, enfin quelle est l'idée. Vous êtes toujours là ?
Oui, oui, mais en fait là du coup...
Et là, le coup de l'épargne, là encore, c'est monstrueux, mais ça a l'air logique. Comme Jospin, rappelez-vous le fonds Jospin, je suis désolé, hein, c'est Jospin. Jospin, écoutez, c'est risqué, la retraite par répartition, on ne sait pas si ça va tenir jusqu'au bout, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça serait prudent d'avoir des retraites complémentaires, etc., parce que la retraite par répartition, ça, elle est indexée sur la croissance, donc vous gagnerez que 2% si vous prenez des retraites par capitalisation, peut-être vous aurez 4 ou 5%. N'importe quel économiste un peu sérieux, il démonte ça en un clin d'œil, mais le problème, c'est qu'il faut avoir une culture économique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que c'est que l'épargne. L'épargne, c'est pas des sous que vous mettez dans un frigo et que vous récupérez à la fin. Quand vous prenez une épargne par retraite, le type il met pas votre argent dans un coffre, il le volatilise instantanément en bourse, d'accord, et il transforme votre argent en une hypothèse sur l'avenir.
D'accord.
Peut-être que vous voudrez, quand vous serez vieux et que vous viendrez rechercher votre pognon, peut-être que ce pognon existera. Mais il existera. Pourquoi ? Il existera si les travailleurs à ce moment-là ont fabriqué la richesse qui permet à ce gars-là, le banquier, de retransformer son titre en argent, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut quand il va arriver avec son titre sur le marché de boursier, il va falloir qu'il y ait des gens qui lui achètent. Donc de deux choses l'une, soit cette richesse a été produite par les travailleurs et donc il n'y avait absolument pas besoin de retraite par capitalisation, puisque la richesse est produite, on peut faire fonctionner la retraite par répartition. Première hypothèse, soit cette richesse n'a pas été produite, ce qui est une raison supplémentaire de ne surtout pas avoir pris de l'épargne retraite. Puisque là, là, pour le coup, vous n'aurez rien. Donc dans les deux cas, on voit bien que là, l'épargne retraite ne sert à rien. C'est un piège à gogo.
Non, en fait, elle sert
c'est
surtout...
pour truander les petites gens,
elle
pour
sert
que les gros
voilà.
se jouent en bourse.
Parce qu'il faut rappeler que les retraites, c'est des centaines de milliards d'argent qui pourraient être investis sur les marchés financiers et donc remplir les poches encore de ceux qui ont déjà des poches bien assez pleines. D'accord,
tout,
bah
tout à fait, mais ce qui est atroce, enfin, ce qui est triste, ce qui est difficile, c'est que là encore, il faut prendre, enfin, pour expliquer ça, je veux dire, moi j'ai des amis, je connais des gens qui ont pris de l'épargne retraite, enfin, dans ma famille, mon beau-père, je sais pas qui, je veux dire, ce sont des gens qui avec la meilleure intention du monde, enfin, se sont dit, oh, je devrais prendre un peu d'épargne retraite, puis c'est fou, et en même temps, pour arriver à lui expliquer, il va falloir que je remette plein de concepts sur la table avant qu'il arrive à comprendre ce que c'est que de l'épargne. Et donc, on a ce problème-là qui est qu'en face des arguments mensongers du gouvernement, on n'a pas la pédagogie économique. Ce que nous, on appelle l'éducation populaire. On a piqué le terme à Jean Guéhenno, hein, qui avait inventé les éducateurs populaires en 1945, après à Auschwitz. Précisément après la Shoah, après le nazisme, un certain nombre de personnes dans la République se disent il faut faire de la pédagogie politique, c'est-à-dire que l'État doit faire de l'instruction politique. Et puis ils vont tenter le truc et finalement ça va pas marcher, ça va se ratatiner au bout de 3 ans, ils vont arrêter ça.
Bah écoutez,
l'intention était juste. À l'école, l'éducation nationale avait mis en place une direction de l'éducation politique des jeunes adultes. Ça s'appelait la direction de l'éducation populaire.
Mais l'essentiel, c'est que vous ayez repris le relais, en tout cas. J'espère que les auditeurs ont bien pris conscience de ce que vous avez mis en avant, les arguments que vous avez explosés en vol, si vous me permettez l'expression. Et justement, vraiment, je les invite à aller voir votre conférence, surtout pour ceux qui sont dans la région. Je rappelle l'intitulé, donc c'est « Inculture ». C'est la version numéro 5, et qui s'appelle « Travailler moins pour gagner plus ». Petite pincée, je pense, à notre président. Et donc, là, on a surtout pris l'angle de la réforme, mais vous y parlez également du travail, de la protection sociale et du syndicalisme. Donc, c'est vraiment une conférence qui englobe tous les secteurs. Donc, ils vont pouvoir s'instruire un petit peu et comprendre un peu mieux dans quel pays ils vivent, en tout cas, j'espère. Et donc, s'ils veulent venir vous voir, c'est le jeudi, je pense que c'est un jeudi, mais c'est le 2 décembre, il faut attendre un petit mois, et c'est à Los Angeles, à la fabrique théâtrale Culture Commune. Et donc c'est une conférence à ne surtout pas louper, et vous la faites avec Gaël Tanguy, il me semble.
Oui, on est un des 8 coopérateurs, et on a tous développé des conférences gesticulées. Demain soir à Genève, il y a Anaïg et Alexia, 2 coopératrices du pavé, qui font une conférence sur le management et la démarche qualité. Enfin, contre le management de la démarche qualité. Et donc, celle du 2 décembre, ça sera moi égal, ouais.
D'accord. Bah, écoutez, j'espère qu'ils seront nombreux à venir vous voir. Et puis, moi, je vous remercie encore énormément d'avoir bien voulu répondre à mes petites questions. Et j'espère que
on va
pourra.
Se quand ils vont s'attaquer à la Sécu.
D'accord. Bah, écoutez, donnez-nous le nom de votre prochaine conférence et on y sera. Okay. Mais en tout cas, je profite pour les auditeurs, s'ils ont encore un petit peu de patience, on va passer des extraits justement sur l'enjeu des réformes. Et puis merci encore Franck Lepage et rendez-vous le 2 décembre à Los Angeles.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous vous rappelez peut-être, vous avez été destinataire du temps de Raffarin, tous, d'un courrier du gouvernement en votre nom propre, qui est arrivé dans votre boîte aux lettres. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, moi, je l'ai reçu. Et ce courrier était un courrier pédagogique. Il y avait un petit schéma. Il y avait trois petits bonhommes, trois jeunes, qui payent 2 petits bonhommes, 2 vieux. Ça, c'était aujourd'hui. Et puis, le schéma d'après, c'était il n'y a plus que 2 petits bonhommes, et là, il y a 3 petits bonhommes à payer. 2 jeunes pour 3 vieux. Donc le truc c'était, c'est mort, on peut plus. Et là, je me suis fait avoir. J'ai regardé le truc, ben j'ai dit merde. Ah ouais, c'est vrai. Merde. On peut rien fait, c'est l'arithmétique. Tu vas pas descendre dans la rue, non, à l'arithmétique. C'est brutal, tu vois. Et Fillon vient de le rappeler, hein. Il a dit les marches, les manifestations dans la rue ne changent rien en problème démographique. Eh, tu dis, ah merde, il y a trop de vieux, il n'y a plus assez de jeunes, merde. J'étais vraiment à couper les tapes, quoi. Et puis là, il y a un mec qui s'appelle Friot, Bernard Friot. Friot, il me dit, mais t'es complètement con. Alors, je lui dis, vas-y Bernard, toi tu me parles comme ça. Enfin, ici, on suit ton raisonnement à la Rafar. Alors, dans le 44, il y avait 15 millions de paysans pour nourrir 40 millions de Français. Et comme on sait qu'en 2010, il n'y aura plus que 1 million de paysans pour nourrir 50 millions de Français, on peut prédire une immense famine en 2010. Qu'est-ce que tu m'embrouilles là avec tes pécores? C'est quoi ton truc là? Quoi? Puis là, j'ai mis des lunettes, je lui dis, ça marche pas ton truc, qu'est-ce que tu fais des gains de productivité, hein, dans l'agriculture? Et il me regardait avec un petit sourire. Oh putain. Oh quel con. Mais qu'est-ce que je suis con. Oh mais je suis con.
Et ouais.
Oh putain.
Parce qu'en fait, les deux de 2040 par rapport à ceux de 2000, ils produiront la richesse pour 4.
Et le patron a nous dit tous les jours, la croissance sera là, elle sera au rendez-vous, elle sera 2,5%. Ils nous le disent.
Et donc ça change tout comme dessin. Parce que si on passe de 3 à 2 à 4 à 3, donc 4, l'équivalent de 4 actifs pour financer 3 retraités, on voit carrément que c'est beaucoup plus jouable. Il va peut-être falloir faire un petit peu d'effort, mais on est quasiment dans les mêmes proportions, finalement. Donc c'est carrément jouable. Donc en fait, ça vaut le coup de se battre.
Maintenant, Friot dit, supposons qu'on revienne par nos luttes, qu'on abolisse cette aberration, d'accord, hein, ce qu'on appelle la réforme Balladur. Est-ce que vous savez quel est le vrai nom de la réforme Balladur? Balladur, quand il arrive au pouvoir, d'accord, il trouve un paquet cadeau avec un ruban rose.
Rose.
Il l'ouvre et il fait « Non, ça passera pas. » Et les fonctionnaires de Bercy disent « Ça passera jamais, on va foutre tout le monde dans la rue. » Et ça passe. Balladur n'a rien fait, c'est Rocard et Bérégovoy qui ont préparé la caisse de retraite. Et donc le mystère, c'est pourquoi avons-nous accepté d'enrayer, de cesser un mouvement historique, qui était un mouvement d'augmentation régulier, normal, des cotisations patronales qui suivaient un mouvement régulier normal de croissance de richesse qui était de toute façon toujours plus gros, qui était de plus en plus gros. Pourquoi est-ce que nous avons accepté d'arrêter ça? Quand Sarkozy dit travailler plus pour gagner plus, il inverse l'histoire qui est de travailler moins pour gagner plus depuis un siècle et demi. Et ça passe. Nous sommes pris d'une vaste fatigue collective, changer le monde était fatigant. Nous avons accepté d'arrêter ça, et quand on demande à des salles qui ici pensent qu'il aura une retraite à taux plein, on a très peu de gens qui se lèvent la main, c'est-à-dire qu'on a déjà quasiment certains d'entre nous qui disent « Ah non, ça passera pas, c'est pour
nous. » Enfin, allez-y, là. Qui c'est qui pense qu'il aura sa retraite à
taux plein? Oui, non, mais là, c'est...
C'est marqué sur les feuilles, il y a certaines feuilles, de toute manière, j'aurai pas de retraite.
De toute manière, j'aurai pas de retraite. C'est-à-dire que nous avons,
vous voyez, c'est quand même,
nous avons intégré cette pédagogie gouvernementale. Moi, je me suis fait avoir comme les autres, hein, jusqu'à ce que j'entende rien. Nous avons intégré ce truc que, ben ouais.
Ça va être chaud de défendre un truc auquel on ne croit plus, quoi.
Nous sommes historiquement dans un phénomène de décélération du coût de la retraite. La retraite coûte de moins en moins cher par rapport à la richesse qui continue de monter. Et donc, on nous fait croire que la retraite coûte de plus en plus cher. L'effort à fournir avant était beaucoup plus lourd pour le patronat qu'il ne l'est maintenant. Et pas belle la vie. En 1983, les socialistes décident de mettre fin à l'augmentation historique des salaires. Et alors comment ils font? Il y a un mec qui s'appelle Jacques Delors, qui a une idée géniale pour que ça passe, parce que sinon, si les socialistes disent on gêne les salaires, ils ont toute la France dans la rue, ils viennent d'être élus. Et là, Jacques Delors dit, nous allons engager la France dans une vaste politique de désinflation compétitive. Eh bien, je ne suis pas descendu dans la rue pour dire non à la désinflation compétitive. Pédagogie gouvernementale. Parce que l'autre pédagogie gouvernementale consiste à nous faire croire que les retraites sont le fruit de notre travail. Le jour où on accepte de foutre cette idée à la poubelle, le capitalisme est mort.
D'accord.
Démonstration, M. Gaël.
La retraite n'est pas le fruit.
Il n'y a aucun rapport entre notre...
Ça, ce serait vrai. Ce serait vrai si quoi? C'est que tous les mois, je mets mes 500 euros là, qu'on a vu dans la fiche de paye dans ma brouette. Ma brouette. Okay, tous les mois. Chling, 500 euros. Chling, 500 euros et tout ça pendant 37 ans et demi, 40, 42 ans, je sais pas. Mais enfin, ça fait une putain de brouette à la fin, tu vois.
Oui, oui, mais pas suffisante.
Ah bah non.
Parce que 500 euros par mois, c'est des 5000 euros par an. Pour vivre, même multiplié par 20 ans, ça fait 100 000 euros, tu vas pas loin avec ça.
Ça veut dire, ça voudrait dire qu'en fait, l'argent que j'ai contribué à faire cotiser, ce serait mon argent.
C'est la Suisse.
C'est pas le cas, ça, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les retraites? Ça, vous le savez tous, c'est que dès qu'on a fini à la fin du mois de tous donner notre argent pour les retraites, ce fric-là, il est immédiatement distribué aux retraités actuels. C'est ça la répartition. La répartition, c'est pas un système d'épargne, c'est le contraire de l'épargne. La répartition, c'est on cotise maintenant et on donne maintenant. Ce qui veut dire qu'évidemment, ma retraite, ce sera ceux qui bosseront à ce moment-là qui vont me la payer.
C'est pour ça que le salaire, c'est un rapport de force, c'est un barème. Nous obligeons au temps T où il faut payer des travailleurs libres, nous obligeons le patronat à verser une certaine somme.
C'est bien pour ça que pour eux, c'est vraiment emmerdant en ce moment, parce qu'en fait, les retraites, ce sont la démonstration qu'on peut massivement payer du travail libre. C'est ça qu'ils veulent absolument empêcher. Alors ça, c'est la répartition. Et ça marche vachement bien, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne, et qu'il n'y a aucune raison, on l'a démontré un peu économiquement, que ça ne fonctionne pas à l'avenir. Sinon, on est capable d'avoir notre part du gâteau. Bien.
Vous vous rappelez le slogan de 68, hein, nous ne voulons pas une part du gâteau en plus, nous voulons toute la putain de boulangerie.
Pour comprendre l'arnaque, il faut aussi comprendre l'épargne. C'est chiant comme ce cas, hein, non? Alors l'épargne, c'est, on te dit, tu n'auras pas assez de retraite.
Oui.
Donc, il faudrait plutôt que tu penses à remettre un peu de côté par toi-même. Alors là, pour ça, il faut comprendre la retraite. Donc moi, je fais le gars qui cotise 100 euros en plan d'épargne retraite tous les mois. Ok. Même j'ai pris une assurance vie, je l'ai carrément joué perso. Ok, d'accord. Est-ce que vous pensez que le banquier met cet argent-là dans un frigo?
Non. Pour me le ressortir dans 20 ans.
Parce que c'est ça le truc, en fait. En fait, cet argent-là n'est pas dans un frigo. Dès que tu poses tes 100 premiers euros à la banque, ching, elle les place. De deux choses l'une. Soit en 2040, il y aura assez de richesses produites, comme on l'a vu tout à l'heure, pour financer le système par répartition. Auquel cas, il faut choisir le système par répartition puisqu'il marche. Ok. Soit, en 2040, effectivement, il n'y aura pas assez de richesses produites pour financer le système par répartition.
Hypothèse, je n'ose pas.
Auquel cas, il faudrait plutôt choisir la capitalisation. Ah bah ouais, mais en 2040, quand je vais retourner voir la caisse d'épargne pour récupérer mon frigo, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme c'était pas dans le frigo, il va falloir qu'ils revendent les actions pour me rendre l'argent en vrai. Et si cette année-là, en 2040, il n'y a pas assez de richesses produites dans le monde et qu'il n'y a personne pour acheter des actions, t'en recules. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est comme les fonds de pension l'année dernière, en fait, les actions ne valent plus rien.
Puisque la richesse n'a pas été produite, on ne peut pas la reconvertir en argent.
Personne pour acheter des actions.
Donc, dans un cas, la richesse a été produite, on a intérêt à garder la répartition.
Dans l'autre cas, la richesse n'a pas été produite, on a intérêt à choisir la répartition. Ça va, c'est clair?
C'était un extrait de la conférence Inculture, travailler moins pour gagner plus ou l'imposé inouï du salaire. Une conférence animée par Franck Lepage et Gaël Tanguy. Et surtout, ne la ratez pas, ils seront de passage dans la région. C'est le 2 décembre à Losangoël, à la Fabrique Culture Commune.